Eh bien, bonsoir. C'est toujours avec Madrugada que s'ouvre cette onde noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques. Donc au sommaire de cette émission, en première partie, nos coups de cœur, donc les livres que l'on a beaucoup appréciés et que l'on va vous conseiller, évidemment toujours dans le style polar et roman noir. Et puis dans une deuxième partie, nous aurons la chance de retrouver, je dis retrouver car nous l'avons eu en interview il y a un mois pour nous parler des traductions de Dashiell Hammett, et là, Nathalie Benat, spécialiste de Dashiell Hammett, viendra nous parler d'un petit recueil, petit par la taille et très grand par la qualité. Mais d'abord, je vais vous parler tout simplement de petites choses sans importance. Les petites choses sans importance, ce sont les Kadogos. Kadogos, c'est en langue Swahili. Vous ne le savez pas, moi non plus, c'est la langue d'Afrique de l'Est. Et ces Kadogos sont donc les enfants soldats qui, en gros, dès l'âge de 8 ans, pillent, tuent et violent au sein des milices du Kinshasa, évidemment des gamins enrôlés de force, drogués, battus. Et Kadogos, c'est aussi le titre du dernier roman de Christian Roux, qui est sorti il y a 2 mois à Rivage Noir.
Du nouveau roman de Christian Roux, parce que j'espère bien que ça ne sera pas le dernier.
Pardon, bien sûr, tout à fait. Vu comme il écrit bien, on espère bien que ce ne sera pas le dernier. Donc ces enfants soldats qui ont perdu tous leurs repères à force d'être obligés de tuer pour ne pas se faire tuer, sont des petites choses sans importance aussi bien en Afrique de l'Est qu'ici, parce que c'est tellement loin, donc on en parle très peu. Et ces petites choses sans importance, se peut-il qu'une troupe de ces enfants soldats se balade librement en France et assassine sauvagement à la machette plusieurs personnes, toutes liées à une clinique privée. Déjà, quand on dit clinique privée. Quand je dis sauvagement, ça implique d'ailleurs que nos esprits occidentaux, promptes à raisonner selon des valeurs des fois parfois étriquées, ne peuvent imaginer que des enfants puissent commettre de tels crimes. Et deux des personnages de ce roman, Eustache, flic, Marine, la scientifique, effarée par ces cadavres mutilés et dépecés, ont du mal à s'en persuader. Pourtant, il y a des indices. D'ailleurs, un autre personnage, Marnie, elle, tueuse à gages. Tueuse à gages d'ailleurs bien particulière. Elle euthanasie, à la demande, sur contrat, des personnes en fin de vie. Le dernier contrat en date, un dénommé Berman, est en train de mourir d'un cancer du poumon dans sa propre clinique, la clinique privée dont je vous parlais tout à l'heure, et un membre de sa famille veut abréger ses souffrances. Mais les souffrances abrégées, le corps disparaît et Marnie doit absolument le retrouver pour se faire payer par son commanditaire. Elle mène sa propre enquête et, bizarrement, sous la plume de Christian Roux, elle se retrouve toujours avant les flics sur les scènes de crime. Et tout aussi bizarrement, elle devient la suspecte principale. Je ne vous en dis pas plus. Comme le dit l'auteur, l'horreur a ses chemins, toujours les mêmes. Les mêmes victimes, les mêmes bourreaux qui se servent d'un pouvoir quelconque pour toujours écraser les autres. Y compris d'ailleurs, lorsqu'on est fonctionnaire des services de santé et que l'on arrache un enfant mentalement fragile à la seule personne qu'il aime. Là, je fais référence à un passage particulièrement émouvant de ce livre où Tony, un ancien enfant placard, je dis enfant placard puisque on l'a déjà rencontré, cet enfant, dans le livre éponyme de Christian Roux,
qui s'appelait donc Placard.
Voilà, et que l'on avait vraiment adoré, qui nous avait fait découvrir cet écrivain. Et depuis, il a été recueilli par celui qui l'avait découvert, le flic Eustache, dont je vous parlais précédemment. Donc, une scène particulièrement dure et émouvante. Et devant ces scènes, constamment, couramment, on détourne le regard, gêné. On se sent impuissant, donc on oublie. Et la grande qualité de ce roman, c'est que Christian Roux nous interpelle et nous réveille fort à propos, éveille un petit peu nos consciences qui s'endorment. C'est un roman puissant, à l'écriture très maîtrisée, très tenue, qui évite avec beaucoup de justesse toute emphase devant les horreurs décrites. Comme à son habitude, on le retrouve un petit peu dans tous ses romans, l'écrivain jongle avec les styles, les registres de langue, et ça donne vraiment une ampleur au récit. Comme vous l'avez compris, ce livre n'est pas à franchement parler un roman distrayant. Par contre, il est complètement indispensable et par la qualité et par le sujet. Donc je rappelle le titre et l'éditeur, Cas de gosse, roman de Christian Roux, édité chez Rivage Noir. Donc la petite collection, je précise toujours, 8,50 €. Voilà, un beau cadeau de Noël. Jacques, un de tes coups de cœur.
Alors, on change complètement de ton, heureusement, parce que si on pouvait deux livres de suite comme ça, ça serait difficile.
Non, il faut le
dernier. C'est un livre qui a enchanté ma fin d'été, dont je ne peux parler que maintenant, vu que les émissions... Voilà. Donc, c'est un livre de Craig MacDonald, qui s'appelle La tête de Pancho Villa, qui est publié dans la collection Bel Fond Noir, donc une collection grand format, pour 20 €, qui a été traduit par Pierre Régnier. Alors, ce roman, tout commence assez étrangement, même, disons, folkloriquement, dans un bar glauque de Ciudad Juárez. J'ai pas l'accent de notre ami.
Faut s'entraîner avant de parler étranger.
Oui. Donc, dans ce bar, du côté donc au Mexique, Ciudad Juárez est au Mexique, Bill Wade remet un sac contenant la tête du général mexicain Pancho Villa, d'où le titre du roman, à un certain Hector Lassister, qui est un écrivain de polar, disons, sur le retour. Pas à un top niveau, mais bon...
Mais qui n'est jamais parti non plus.
Qui n'est jamais parti. Bah si, en fait, il est au Mexique. Et cet écrivain est accompagné pour l'heure de son futur biographe, un journaliste un peu poète sur les bords, qui s'appelle Bud Fisk. Il leur donne cette tête, à charge pour eux de la remettre à des sbires d'un certain Preston Bush, lequel Preston Bush est donc le grand-papa de W et le papa de George Bush, à Yale, dans un club privé. Peu à peu, ce Bill se fait révolvériser et Hector et Bud commencent une longue fuite dans une superbe Chevrolet Bel Air 1950. On peut fuir, mais rester classe, n'est-ce pas? Cette tête est l'objet de nombreuses convoitises de gens généralement sans scrupules et puissamment armés. En fait, ça reprend un petit peu certains thèmes du roman.
C'est d'une grande violence. Je ne voulais pas t'interrompre, mais...
Et donc, ces gens sans scrupules et puissamment armés, comme je disais, vont faire vivre à nos deux compères, des moments pas toujours faciles. Mais Hector Lassister, lui, c'est un très bon ami, peut-être même plus, on ne dira pas, de Marlène Dietrich. L'actrice, vous savez, elle est morte maintenant.
Pancho Villa aussi.
Pancho Villa aussi, bon, il n'y a que sa tête alors forcément. On assiste au tournage pendant le roman de La soif du mal, de Orson Welles, et d'ailleurs en fait Hector va même assister Orson Welles pour certaines scènes, mais je ne veux pas trop en dire. Donc évidemment, quand on est copain de Marlène Dietrich, on est protégé par une certaine aura qui ira même jusqu'à détourner les balles pourtant nombreuses. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le ton de Christian Roux, c'est un roman qui est rondement mené, il débute sur un ton assez ironique, il devient presque une farce par moment, puis ça tourne au roman d'aventure avec un ton qui est peut-être doux amer. McDonald's, il y en a plein des McDonald's dans le polar, hein. On a déjà parlé.
À commencer par un des plus anciens, John D. McDonald's.
Voilà, bon, celui-là, c'est un petit jeune.
Il y en a plein en France aussi, des McDonald's.
Voilà, aussi,
mais
ça n'a vraiment rien à voir.
Non, oui.
Donc là, il s'appelle Craig, lui, donc c'est un petit jeune, enfin, qui a une bonne quarantaine d'années, donc c'est quand même pas un gamin. Donc ce roman, donc, on côtoie des stars d'Hollywood, on verra aussi le jeune G.W. Bush, j'en parlais tout à l'heure, le petit-fils de Preston. On va pouvoir voir les éternels conflits entre la Californie et son voisin mexicain. Il n'y avait pas encore le mur. C'est relativement violent. Il y a beaucoup de balles qui partent de tous les côtés. Il y a des pics de cactus dont on fait un usage qui donc assez étonnant. Une torture qui est pas mal, en fait. On couche quelqu'un sur un pic de cactus et puis comme ça pousse d'un centimètre dans la nuit, ben le mec, il se retrouve...
Ça s'appelle un pal.
Voilà, c'est assez étonnant. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler. Ça reste très drôle, c'est pas hilarant ou complètement frappé comme certains Christopher Moore, mais c'est réjouissant, ça fait du bien de temps en temps. C'est vrai que je lisais ça au bord de l'eau et j'avais tendance à rire tout seul des fois. Ça rappelle par certains côtés le côté un petit peu déjanté mais de certaines aventures de Donald Westlake.
Oui, ou tu parlais aussi de Christopher Moore.
Voilà, je viens de dire Christopher Moore, mais c'est pas aussi frappé que Christopher Moore quand même, hein. Dans une certaine mesure, il n'y a pas de personnage complètement abracadabrant, quoi. Hein. Même si, il appelle tout au long du roman Marlène Dietrich, il appelle la Bosch, mais bon, voilà.
Alors, sais-tu quel est le point commun entre le roman dont je viens de parler, Cas de gosse, et Craig MacDonald?
Eh ben non, mais tu vas me le dire.
Bush. Puisque dans le roman de Christian Roux, il nous apprend, chose que j'ignorais totalement, que le grand-père du dernier président Bush a trempé dans de très très sales histoires avec le gaz Zyklon et les firmes allemandes et américaines IG Farben, hein, qui étaient les responsables de la fabrication du Zyklon B, et qu'ils ont massacré et pris pas mal de milliers de personnes des camps de concentration pour faire des essais et pour travailler dans les trucs.
Voilà. Eh ben, je peux dire que cette anecdote est légèrement évoqué dans le roman de Craig McDonald, comme quoi
on va les faire se rencontrer.
Pourtant, je ne pense pas qu'ils se connaissent.
Voilà.
Donc, on va se mettre un petit peu de musique. Là, j'ai pas eu de mal à choisir, puisque Craig McDonald dédicace son roman à un certain Tom Russell et un Andrew Harding, qui dit ils m'ont offert la bande son. Eh ben, je vais vous mettre un petit morceau de Tom Russell, et ça s'appelle Tonight We Ride. Et si vous écoutez bien, eh ben, il parle de Pancho Villa.
Pancho Villa across the border. In a year of odd 16, the people of Columbus still hear him riding through their dreams. He killed 17 civilians, you could hear the women scream. Blackjack Pershing on a dancing horse was waiting in the wings. Tonight we ride, tonight we ride. We'll skin old Pancho Villa, make shafts out of his hide, shoot his horse, Siete Leguas, and his 27 brides. Tonight we ride, tonight we ride. We rode for 3 long years till Black Jack Pershing called it quits. When Jackie wasn't looking, I stole his fine spade bit. It was tied upon his stallion, so I rode away on it to the wild Chihuahuan desert, so dry you couldn't spit. Tonight we ride, you bastards dare. We'll kill the wild Apache for the bounty on his hair. Then we'll ride into Durango, climb up the whorehouse stairs. Tonight we ride, tonight we ride. I'm too damn old to sit a horse, I'll steal the warden's car, break my ass out of this prison, leave my teeth there in a jar. You don't need no teeth for kissing gals or smoking cheap cigars. I'll sleep with one eye open, 'neath God's celestial stars. Tonight we rock, tonight we roll. We'll rob the Juarez liquor store for the Ray Posada gold. And if we drink ourselves to death, ain't that the cowboy way to go? Tonight we ride, tonight we ride. Tonight we fly, we're heading west toward the mountains and the ocean where the eagle makes his nest. If our bones bleach on the desert, we'll consider we are blessed. Tonight we ride, tonight we ride. Tonight we ride, tonight we ride.
Ben, après cette belle musique, je voudrais vous parler d'un polar assez étrange, très différent en fait de ce qu'on parle d'habitude. Presque exotique, parce qu'en fait, c'est un polar polonais. C'est un polar historique et un polar alcoolique. Donc, le nom de l'auteur, c'est Marek Krajewski. Le roman s'appelle La peste à Breslau. Paru à la série Noire et traduit du polonais par Margaret Carlier et Marika Laurent. Dans le premier de la série de ces romans, le flic, qui s'appelle Ederbar Mok, est un flic qui enquête et qui boit tellement que le récit en est presque imprégné. Et le lecteur aussi, et on a vaguement l'impression d'avoir trop bu en lisant le roman. Le premier s'appelait Les fantômes de Breslau. Et puis, dans celui-là, c'est un tout petit peu moins vrai, il s'appelle donc La peste à Breslau. Ça se passe quelques années plus tard. L'intrigue s'en ressent à la meilleure à lire. C'est un polar historique parce que ça se passe en Allemagne dans les années 20. Alors je vous disais, roman polonais, pourquoi en Allemagne ? Eh bien, parce que jusqu'en 1945, cette ville de Breslau, qui s'appelle de son nom allemand Wrocław.
Décidément, t'as choisi des noms de villes.
Ah oui, ça, c'est pas facile. Hein. J'ai mis la phonétique. Wrocław. Tu me l'as pour un polar alcoolique de s'appeler Wrocław, c'est assez amusant.
Oui.
Voilà, donc cette ville se situe en Basse-Silésie, donc c'était à l'époque l'est de l'Allemagne, au nord de la République tchèque. Mok, le flic, il est flic à la mondaine, ce qui explique sa longue et assidue fréquentation des putes, enfin des prostituées du coin, disons. Alors quand deux de ces dames sont assassinées et qu'en plus on retrouve la boucle de sa ceinture à côté des cadavres, il va être accusé du crime, embastillé, et hop, c'est le début de l'enquête. C'est pas facile d'enquêter en prison, mais vous verrez. Et donc, sous fond de corruption, de crimes, des flics, du personnel pénitentiaire, des édiles de la ville, l'auteur, Marek Krajewski, va nous raconter un peu sa ville à cette époque. Il y a presque, pas exagéré, mais il y a presque du Elroy dans ce polar, tant la description de la déliquescence de la ville que dans la violence de certains passages, on dirait, vraiment, ça pourrait ressembler, sauf que c'est transposé en Allemagne ou en Pologne, selon l'époque où on situe. On voit bien que la peste dont il est question dans le titre, évidemment, n'est pas forcément que la maladie transmise par les rats. C'est donc, je disais, un deuxième roman à paraître à la série noire de Krajewski, qui met en scène ce flic Eberhard Mohr. Et c'est vraiment des romans intéressants parce qu'ils sont vraiment à part. L'auteur a un véritable sens des dialogues. Et puis, il y a quelque chose qui fait, en plus, dans la spécificité, c'est que le héros adore la musique baroque. Il parle pratiquement le latin, pratiquement couramment le latin, ce qui est quand même pas courant chez nos tough guys de polar américains. Donc moi, je vous recommande la découverte de ce livre paru à la série noire de Marek Krajewski qui s'appelle « La peste à Breslau ». Et maintenant, les infos.
Voilà.
18h31.